Bonjour, mon nom est Michel Pion, vice-président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au Balado humaniste. Dans cet épisode, nous allons discuter d'un projet de société cher au cœur des humanistes, et j'ai nommé la laïcité. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir avec nous un de ceux qui ont été aux premières lignes de cette bataille pour la laïcité, M. Daniel Barry. Anthropologue de formation et journaliste de profession, Daniel Barry a été élu président du mouvement laïque québécois pendant plus d'une vingtaine d'années, poste qu'il a repris en 2021. On lui doit plusieurs centaines d'articles d'analyse sur la laïcité publiés dans les quotidiens et magazines plus spécialisés. Il est co-rédacteur avec Guy Rocher de la Déclaration pour un Québec laïque et pluraliste qui a servi de plateforme au groupe des intellectuels pour la laïcité. Ses travaux en anthropologie biologique ont conduit à la publication de La Grande Illusion, comment la sélection naturelle a créé l'idée de Dieu. Il a également publié ou collaboré aux ouvrages suivants. Heureux sans Dieu, pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, La face cachée du cours éthique et culture religieuse, Tout ce que la science sait de la religion, et il est également intervenu, à titre de témoin expert, dans les procès sur les prières municipales à Laval et à Saguenay. Il est aussi titulaire du prix Condorcet-Dessaulles 2006, décerné par le mouvement laïque québécois. Et je suis très fier de dire également qu'il est membre depuis plusieurs années du conseil d'administration de l'Association humaniste du Québec. Bonjour Daniel et merci de prendre un peu ton temps pour nous parler.
Ben, le plaisir est pour moi. Merci à l'Association humaniste de cette invitation.
Commençons d'abord par parler un peu du MLQ, le mouvement laïque québécois, qui a été fondé en 1981. Peux-tu nous résumer ce qui a été à l'origine de sa création?
L'Association québécoise pour l'application du droit à l'exemption de l'enseignement religieux, qui a été fondée au début des années 70 et qui visait à défendre et à faire connaître l'existence dans les lois d'éducation du droit d'être exempté de l'enseignement religieux. L'information ne circulait pas par les commissions scolaires et puis bon, l'association a été créée à cette fin-là pour faire connaître au public, aux parents, qu'ils pouvaient être exemptés de l'enseignement religieux qui, à l'époque, était obligatoire. Enseignement religieux dans les écoles catholiques et dans les écoles protestantes. Alors, l'association s'est aperçue, après une dizaine d'années d'existence, que c'était pas un droit. En fait, c'était une discrimination qui était accordée aux enfants non catholiques ou non protestants dans les écoles publiques. Et c'est comme ça que l'ACADER, enfin, l'association en question, qui s'appelait l'acronyme ACADER, a finalement opté pour, non pas revendiquer, faire appliquer ce droit-là, mais revendiquer plutôt la laïcisation du système scolaire québécois. Et c'est ainsi que l'ACADER, en 1981, a changé de nom pour s'appeler désormais Mouvement laïque québécois et étendre la question de la déconfessionnalisation à tous les éléments là, de la sphère des institutions publiques, et non seulement à l'école, et ultimement revendiquer une loi sur la laïcité de l'État. Moi, personnellement, j'y suis venu parce que j'étais justement enseignant en formation morale pour les élèves exemptés de l'enseignement religieux à cette époque. Et bon, je connaissais évidemment l'existence du droit puisque j'étais un des opérateurs de l'application du droit en donnant des cours de formation morale prévus par la loi. Il y avait un programme pour ça, donc j'étais enseignant en formation morale pour les élèves exemptés de l'enseignement religieux. C'est comme ça que j'avais joint l'ACADER et puis que j'y suis resté et que j'étais un de ceux aussi qui a poussé pour que on réclame désormais la laïcisation de l'école et non plus seulement ce droit d'exemption.
Par ailleurs, il convient de signaler que le MLQ a été le récipiendaire du premier prix de la laïcité Guy Rocher, créé en 2019 afin de saluer la contribution actuelle ou passée d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement en faveur de la laïcité. Il est décerné tous les ans par le ministre responsable de la laïcité. Quelle était la réaction au MLQ lorsque vous avez appris que vous étiez le récipiendaire du prix?
En fait, c'est une belle surprise et c'est on considère comme une belle reconnaissance du travail accompli par le mouvement laïque québécois depuis 40 ans, parce que cette année, on célèbre notre 40e anniversaire d'existence et c'est la première année où ce prix est décerné. On a présenté notre candidature et puis il y a un jury qui était nommé par le ministre responsable de la laïcité, Simon Jolin Barrette. Le jury a été unanime pour décerner ce prix, le premier prix donc de la laïcité Guy Rocher au mouvement Les Québécois. Ça a été une année assez remplie également cette année. Évidemment, le procès contre la loi 21, dans lequel on est fortement engagé. Et bon, en fait, il s'agit d'une reconnaissance, comme je disais, du travail accompli. On en est très heureux, très très fiers de ce prix. D'autant plus que Guy Rocher est une connaissance, moi, personnelle, avec qui j'ai fait plusieurs entrevues quand j'étais journaliste à l'Université de Montréal, avec qui j'ai rédigé la Déclaration pour un Québec laïque et pluraliste, à qui, d'ailleurs, le mouvement laïque a décerné le prix Condorcet. Donc, et que M. Rocher ait accepté de donner ce nom au prix de la laïcité, c'est pour nous aussi un honneur de le recevoir.
Justement, parlons un peu, si tu veux, de la loi 21, qui a été déposée par l'Assemblée nationale en juin 2019 et qui présentement est contestée devant les tribunaux. C'est la première loi, pour autant que je sache, à déclarer officiellement que le Québec est un État laïque. Elle interdit le port de signes religieux aux employés de l'État, y compris aux enseignants et ceux en position d'autorité. On a entendu beaucoup de critiques, comme cette loi est dirigée contre les religions, les femmes musulmanes en particulier. Juste pour qu'on remette les pendules à l'heure, est-ce que tu peux expliquer rapidement le principe de laïcité?
Oui, en fait, la loi 21, effectivement, c'est la première loi qui déclare que l'État est laïque au Québec. Il y a eu des tentatives auparavant, des projets de loi qui n'ont pas été adoptés, qui ont avorté. Il y a eu une loi sur la neutralité religieuse, mais qui n'allait pas très loin, qui finalement se limitait à interdire le visage voilé. La loi 21, d'une part, définit la laïcité selon quatre principes là, généralement reconnus pour définir la laïcité, c'est-à-dire qu'on parle de la séparation des religions et de l'État. On parle de la neutralité religieuse de l'État. Donc, la neutralité religieuse, c'est un des éléments de la laïcité. Donc, c'est pas la même chose que l'ensemble de la laïcité. On reconnaît également, au nom de la laïcité, l'égalité de tous les citoyens, citoyennes, quelle que soit la religion, la croyance, la conviction, l'origine ethnique, etc. Et c'est une loi la laïcité, dans le quatrième principe reconnu par la loi 21, c'est fondée sur la reconnaissance de la liberté de conscience et de la liberté de religion des citoyens. Donc, on a là quatre principes fondamentaux de la laïcité qui sont définis dans la loi 21 et qui sont aussi reportés dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, on considère que la Charte est une loi quasi-constitutionnelle et ces principes de la laïcité donc, sont maintenant enchâssés dans cette Charte. Et un autre élément important dans la définition de la laïcité, c'est que on dit que la loi dit que la laïcité doit être réelle et apparente. Et ça, c'est tiré mot à mot du jugement sur les prières à Saguenay, le jugement de la Cour suprême obtenu par le mouvement laïque québécois qui visait à faire interdire les prières dans les assemblées municipales avec une cause type à Saguenay. La Cour suprême dit que la neutralité religieuse de l'État doit être réelle et apparente. Si elle est apparente, ça veut dire qu'il faut proscrire les signes religieux dans les institutions publiques. C'est ça, c'est pas seulement sur les murs, c'est aussi pour les personnes qui font office de représentants de l'État. Donc, à notre point de vue, ça devrait être tous les fonctionnaires, mais c'est pas le cas. La loi est quand même limitée de ce côté-là. Elle limite l'interdiction de port de signes religieux seulement aux personnes qui sont en autorité coercitive, c'est-à-dire les policiers, les gardiens de prison, les gardes de chasse, les juges, et on inclut également les enseignants, parce que les enseignants ont quand même une autorité morale, pédagogique, éducative sur les élèves. Ce sont les principaux à qui on interdit le port de signes religieux. Donc, c'est pas l'ensemble des employés de l'État. Pour évidemment respecter le principe de neutralité religieuse qui doit être apparente dans les institutions publiques. Et ceux et celles qui sont déjà en poste conservent leurs droits acquis. Donc, ceux qui s'offusquent de la loi, c'est-à-dire qu'ils la connaissent mal, parce que même les personnes en poste qui porteraient déjà des signes religieux conservent le droit de le faire. Donc, c'est pour les futurs employés dans les postes que j'ai mentionnés. La loi 21 dit aussi que les citoyens ont droit à des institutions publiques laïques. Donc, ça veut dire qu'on peut exiger que le service soit laïque. C'est du droit nouveau, là. Et en fait, ce droit, la laïcité de l'État, telle que définie comme ça, ne porte pas atteinte à la pratique religieuse. Ça dit simplement que c'est pas dans le cadre de l'exercice de votre travail dans une institution publique d'exercer votre religion. Parce que on l'a vu là, très clairement dans les protestes, en fait, dans les de la part des témoignages des personnes qui s'opposent à la loi 21 devant les tribunaux, ils disent clairement que le port de signes religieux fait partie de leur pratique religieuse. Alors c'est pas l'endroit dans mon sens, dans aucun poste de travail, que ce soit dans le privé ou dans le public, d'exercer de face au public et face à la clientèle, d'exercer sa religion. Ça, c'est pas l'endroit pour le faire, et encore moins dans une institution publique. Alors, c'est en gros ce que dit la loi 21. Donc, essentiellement, les policiers, les enseignants, ceux qui sont en poste conservent leurs droits, et puis c'est quand même très limité comme atteinte, comme limitation au droit à la liberté de religion, parce que là, c'est pas un droit d'enseigner ou de travailler pour l'État dans une institution publique ou d'être fonctionnaire. Il n'y a aucun droit qui dit ça, et encore, il y a encore moins de droit qui dit que vous pouvez exercer votre religion dans le cadre de votre travail.
Il y en a qui ont mentionné, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, j'ai entendu en tout cas certains parents commenter comme quoi on devrait étendre ce règlement-là au CPE. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, je pense que oui. Effectivement, ça fait partie des limitations qu'on déplorait de la loi 21. D'une part, ça, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que ça ne s'applique pas aux écoles privées. Donc, et qui sont pourtant financées à 60% par des fonds publics. À notre avis, ça devrait également s'appliquer aux écoles privées. Mais c'est peut-être une soupape là, que le gouvernement veut se garder. C'est-à-dire les gens qui veulent absolument, envers et contre tous, afficher leurs croyances religieuses par des signes religieux, et ils peuvent toujours aller enseigner au privé. Les CPE, donc, sont exclus également de la loi, et ça devrait effectivement s'appliquer à eux, parce que là, on est encore avec des enfants qui sont encore plus jeunes là, que les enfants du primaire, secondaire. La tendre enfance, et ils prennent déjà les monitrices, les éducatrices plutôt, comme des modèles, ça devrait s'appliquer à ce niveau-là également. Tout à fait, pour les mêmes raisons qu'on l'applique aux primaires.
D'accord. La loi 21 a été attaquée là, de tous les côtés, on en a parlé tantôt. Entre autres, par le maire de Hampstead, qui a parlé de nettoyage ethnique. On a entendu l'ancienne première ministre de l'Alberta parler de racisme devenu loi. On l'a déclaré comme islamophobe, j'en passe et des meilleurs. Tu réponds quoi à ces critiques?
Ben, d'une part, il y a dans ces propos-là extrémistes une méconnaissance de ce que dit la loi. Ce que je viens de présenter dans la loi, c'est essentiellement l'ensemble de ce que dit la loi. Donc, c'est très minimaliste comme portée, mais c'est essentiel d'avoir au moins ce minimum-là. Il y a une méconnaissance de ce que dit la loi, il y a une méconnaissance du principe de laïcité qu'on voit comme étant de l'interdiction de pratiquer sa religion. C'est pas le cas du tout, là. Au contraire, la laïcité est basée sur un des principes de la laïcité, c'est la reconnaissance de la liberté de religion. Mais pour que la liberté de religion soit effective, il faut que l'État soit neutre face aux religions. Il ne peut pas faire de favoritisme et permettre aux gens d'afficher une religion plutôt qu'une autre. Il doit vraiment démontrer que l'État ne participe pas à la dimension religieuse. Il y a aussi derrière ces propos, en fait, c'est l'opposition qu'on peut voir entre la conception du sécularisme d'État et de la laïcité. Du côté anglophone, là, les critiques que vous mentionnez viennent du côté anglophone, il y a peut-être même du Québec bashing dans ça. La conception de séparation d'Église et de la religion et de l'État se limite au sécularisme d'État. Leur notion de neutralité, c'est non pas d'établir un mur de séparation, comme le fait la laïcité, mais d'en donner à tous de la même façon. Meilleur exemple, à Toronto, au Parlement de Toronto, on récite tour de rôle une douzaine de prières différentes. Et on considère qu'on est neutre puisque tous ceux qui veulent une prière dans leur confession, ils l'obtiennent. Évidemment, c'est pas 12 prières en même temps, là, mais selon les jours ou les semaines, peu importe les occasions, il y a une douzaine de prières qui est récitée. Ce n'est pas une neutralité religieuse au sens laïque du terme. Okay? la neutralité laïque, c'est l'État est complètement, la religion doit être complètement absente des affaires de l'État. Point final. Alors, mais ça rentre pas dans la tête de beaucoup de gens, là, parce que c'est la conception un peu anglo-saxonne là, du sécularisme.
La loi est maintenant contestée par plusieurs groupements, entre autres par les commissions scolaires anglophones, on l'a déjà mentionné, qui multiplient les démarches juridiques pour que la laïcité ne s'applique pas à eux. Qu'en est-il actuellement? On en est où en ce moment là-dessus?
Bon, c'est essentiellement la commission scolaire English Montreal qui fait partie là, du consortium contre la loi 21 devant les tribunaux. Alors, cette commission scolaire vient d'essuyer un quatrième échec en cours. Elle avait d'abord, une fois que la loi a été adoptée et qu'elle a été contestée tout de suite le lendemain, la commission scolaire English Montreal a demandé de sursoir à l'exécution de la loi le temps que la Cour se prononce sur le fond de l'affaire. Elle a perdu en Cour supérieure, elle est allée en Cour d'appel, elle l'a perdu, elle a porté cette cause-là en Cour suprême, et la Cour suprême a refusé de les entendre. Ils ont entamé une autre démarche d'un tribunal. Une fois que le jugement sur le fond a été rendu par le juge Blanchard, qui lui reconnaît, en fait, dans le jugement Blanchard dit que la loi 21 ne devrait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones au nom de l'article 23 de la Constitution canadienne. Bon, l'article 23 protège le droit à un enseignement dans la langue de la minorité anglophone ou francophone. Les jugements des tribunaux ont été très larges sur l'interprétation de cette loi. Il inclut dans la langue, en fait, l'ensemble de la culture, et le juge Blanchard lui inclut la religion. Donc, dans son jugement, il dit « La loi 21 ne devrait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones. » Ce jugement est porté en appel. Alors, comme il est porté en appel, la loi s'applique. Mais la commission scolaire a demandé que la partie du jugement qui la concerne soit appliquée. Et encore là, ils ont perdu leur recours en cour supérieure. 4 échecs consécutifs de leur part.
J'aimerais ajouter que le mouvement laïque québécois récolte présentement des fonds pour leur défense de la loi 21. Tous associés à ce processus peuvent rapidement devenir très onéreux. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez, vous pouvez faire une contribution monétaire pour la défense de la loi 21 en vous rendant sur le site du mouvement laïque québécois, qui est mlq.qc.ca. Maintenant, sur un peu sur le même sujet, on a également beaucoup entendu parler récemment de l'intention du gouvernement de réformer le fameux cours éthique et culture religieuse et de le remplacer par un autre cours qui mettra davantage l'accent sur l'éducation à la sexualité, entre autres, la citoyenneté et aux droits. C'est un secret pour personne que le MLQ, également l'AHQ, dans une moindre mesure, critique depuis longtemps le cours. Dans un ouvrage collaboratif publié en 2016, « La face cachée du cours éthique et culture religieuse », vous écriviez ceci. « Il n'est pas question de revenir au régime inique de l'exemption de l'enseignement religieux. Saupoudrer ici et là de l'information sur l'incroyance ne serait pas une solution non plus et ne servirait qu'à cautionner la transmission de croyances religieuses. L'abolition du volet religieux du cours ECR est la seule avenue envisageable. » Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes arguments pour le remplacement du cours?
Ben en fait, ce cours-là n'a été demandé par personne, du moins du côté des minorités religieuses, en incluant l'athéisme dans ces minorités. C'est un cours qui a été mis en place uniquement pour conserver du contenu religieux à l'école, une fois que le gouvernement avait opté pour la déconfessionnalisation complète des commissions scolaires, des écoles et de l'enseignement. Alors, il n'a pas osé à ce moment-là, ça c'était suite à une recommandation du rapport Proulx qui disait, le cours d'enseignement religieux devrait être remplacé par un cours d'approche culturelle du religieux. Le principe était peut-être beau, pendant un certain temps, au mouvement laïque, on a jonglé avec l'acceptation de cette idée-là. On peut pas ne pas tenir compte de la religion dans la réalité qui nous entoure. Donner de l'information sur l'histoire des religions, ça me semblait acceptable, mais cette fameuse approche culturelle s'est avérée un leurre monumental. En fait, c'est avéré être un cours de multiconfessionnalité. Plutôt que d'avoir seulement d'enseignement religieux catholique ou protestant, mais là, on avait le contenu doctrinal, dogmatique et sacramentel de toutes les religions possibles. Et ça inclut là les les raéliens et puis les sectes de toute orientation possible, même l'ésotérisme et l'astrologie. On a examiné les contenus des programmes, ce que j'ai fait moi personnellement. J'ai examiné les contenus de différents manuels utilisés dans les classes. J'en ai pris un par niveau d'enseignement et j'ai varié les éditeurs et c'est du confessionnalisme mur à mur. On demande même aux enfants de réaliser un peu sous forme théâtrale l'office religieux de leur religion. Comment se font les sacrements. Et tout ça, ça avait déjà été évacué de l'ancien cours d'enseignement religieux confessionnel, alors vous imaginez. C'était plus religieux que l'ancien cours d'enseignement catholique protestant. Alors, tout le monde, personne ne trouvait son compte dans ce cours, tout le monde s'y opposait, y compris du côté des catholiques et du côté des athées. Il faut dire aussi que l'athéisme était complètement évacué. Dans les démarches pédagogiques, on évacuait toute approche critique des religions. Tout était beau du côté religieux. Évidemment, aucun conflit religieux n'était abordé. Alors, c'était un cours qui était non réformable. Maintenant, ce qu'on demandait au mouvement laïque, c'était l'abolition du volet religieux, parce que le volet éthique nous paraissait tout à fait acceptable. Moi, je suis un ancien enseignant de formation morale. Ce volet-là, pas de problème avec. Ce qui était demandé, c'était l'abolition du volet culture religieuse. Et c'est ce que le ministre Jean-François Roberge, a annoncé récemment. Le cours au complet est retiré, et puis on est en train de procéder à la refonte complète du cours. Ce qui nous réjouit, c'est que ce qu'on demandait qu'il soit retiré est effectivement retiré. Certains craignent que ce soit un fourre-tout. Il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés, mais il y aura une nouvelle consultation en janvier-février 2022 pour ajuster les différentes thématiques. Et ce qui nous réjouit aussi, c'est que la pensée critique va être à l'avant-plan et la pensée critique exercée même à l'endroit des religions, ce qui était complètement évacué dans l'ancien cours. Et quand le cours va quand même garder un élément d'information sur la religion et ça va inclure aussi à ce moment-là l'athéisme qui faisait pas partie de l'ancien cours. L'approche, le droit sur lequel se fonde le cours, c'est la liberté de conscience plutôt que la liberté de religion. La liberté de religion ici étant simplement la liberté de culte. Donc si on a la liberté de conscience, on a aussi la liberté d'exercer le culte. Mais si on n'a que la liberté de religion, ben c'est comme ça que la conscience non religieuse était évacuée du programme. Donc ce sont des orientations qui nous réjouissent, qui vont exactement dans le sens de ce qu'on réclamait depuis longtemps, autant au mouvement laïque qu'à l'association humaniste. Et bon, on va voir là avec les prochains développements dans quelques mois, janvier-février 2022, on va avoir plus de détails sur le contenu, mais nous, on considère que notre rôle n'est pas de refaire le régime pédagogique au Québec, c'était de s'assurer que le contenu soit non confessionnel, et là, on l'a obtenu.
Comme on vient de le mentionner, on ne connaît pas encore exactement le contenu du cours. Par contre, ça peut empêcher certains d'exprimer quelques réserves, notamment de la part de l'Association québécoise en éthique et culture religieuse. Là, on peut comprendre qu'ils ont peur pour leur job. Mais parmi les critiques qu'on a entendues, on craint que la nouvelle mouture du programme cherche à faire la distinction entre nous et eux, entre croyants et incroyants, alors qu'il faut les mettre en dialogue. On a aussi entendu que même si la diversité religieuse fait partie de la réalité, que ça nous plaise ou non, il faut le mentionner, et ainsi de suite. Tu réponds à quoi à ces critiques-là?
Mais en fait, les critiques ont été très hâtives. Plusieurs ont monté aux barricades avant qu'on connaisse même le contenu du cours. Le ministre fait qu'annoncer 3 ou 4 grandes orientations, des principes directeurs avec lesquels on est tout à fait d'accord, et dire qu'il y aurait aussi annoncer quelques thématiques, vous en avez parlé, là, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la sexualité, l'éducation au consentement sexuel, l'éducation aux médias sociaux, l'informatique, l'environnement. Tous ces éléments-là vont faire partie du cours sur la citoyenneté et culture québécoise. On ne peut pas être contre cette modernisation de l'enseignement. Et comme je l'ai dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, la religion, c'est un des éléments de la vie sociale. Et le cours ne va pas l'exclure. Sauf qu'il n'en fera pas de la promotion comme le faisait le cours ECR, où les enfants étaient invités S'il n'y en avait pas à se choisir une religion, la table était mise, c'était un peu le buffet, là. Créez-vous donc une religion si vous n'en avez pas. Alors, l'enfant qui n'avait pas de religion était mis à part, là, se sentait différent des autres qui venaient exposer dans la classe là, quelle était leur pratique et leur croyance religieuse. Ça, c'est effacé. Et les critiques, en fait, ceux qui craignent qu'on mette une barrière qu'on entre nous et les autres, là, les croyants et les incroyants, ben ils oublient que ce sont d'abord les religions qui exacerbent les différences entre les citoyens. Le cours, le ministre était très clair là-dessus, il veut miser sur ce qui nous rassemble, sur les valeurs universelles qui sont communes à tous, c'est-à-dire la citoyenneté. Et donc, vraiment, on a là les éléments beaucoup plus rassembleurs que l'ancien cours qui misait sur l'identité religieuse et ethnique de chacun des élèves. Alors, ça encore là, c'est une critique des gens qui ont parlé à travers leur chapeau parce que ça allait c'était tout à fait contradictoire avec ce que le ministre nous annonce. Puis encore restait-il à voir aussi le contenu du prochain programme. Et comme je l'ai mentionné, ils peuvent pas dire que la religion est évacuée. Ça fait partie, c'est un des éléments d'information qui va être dans l'élément culturel.
Parfait. Alors, merci Daniel Berry d'avoir pris le temps de nous parler. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site assohum.org, c'est assohum.org, ou encore notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@assohum.org. Merci et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.